mais plus fort.
Je me rêvais déjà en Beatles, mais papa allait chez Lidl. Le soir c'était les pâtes souvent, pourtant chez maman on manquait jamais d'argent. C'était sûrement dur à comprendre.
Salut à tous et bienvenue dans Mes Plus Forts, votre magazine musical régional à Châlons-Champagne sur Radio Mono, à Troyes sur Radio Campus 3 et à Reims sur RJR et Radio Primitive. Au programme aujourd'hui, le coup de cœur de Jody de Radio Mono, le groupe régional Loup de Berger qui lance un appel à témoins, le concert record de Digisnake au Stade de France et à l'Accor Arena, les moissons rock à Juvigny en approche et pour commencer, notre reporter Jean-Luc est allé papoter avec le chanteur Basile Palace à l'occasion de son concert à la cartonnerie de Reims le 25 avril dernier, en première partie de Yoa.
La plupart des enfants avec qui je parlais, je faisais tout ce qu'il fallait.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette identité, Basile Palace ?
Bien sûr, alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Qu'est-ce que je peux dire sur Basile Palace ? C'est un projet qui est né en 2019. On a sorti les premiers clips juste avant le Covid. On avait prévu de lancer beaucoup de choses pile à la date du Covid, donc bien vu. Bon, après,
c'était un test,
voilà. Est-ce qu'on était vraiment en déter? Est-ce que 3 ans après, on allait continuer? On a continué, donc c'est cool. Moi, c'est né d'une volonté que j'avais où je faisais du rap depuis que j'avais 13-14 ans, parce que des grands de ma primaire en faisaient dans mon quartier, que j'avais commencé, j'avais vécu des trucs un peu durs avec mon père, et du coup, j'avais envie d'extérioriser ça. J'ai commencé par donc vraiment du rap, parce que c'est ça qu'on écoutait entre nous. Puis, je me suis rappelé en grandissant un peu que, mine de rien, chez moi, c'était tout le temps de la variété française, de la pop, que mon meilleur pote qui était au Conservatoire National, lui, il adorait le jazz, que des potes avec qui je commençais à reparler de musique sous des nouveaux horizons, ils étaient rock. Je me suis dit, mais en fait, c'est dommage. Le rap, en vrai, c'est tellement devenu énorme aujourd'hui que ça va se décliner sous 1000 sous-catégories qu'on pourrait pas vraiment qualifier. Et donc, je me suis dit, ce serait dommage de me priver de cette partie de la musique que j'aime, alors qu'en fait, on peut parfaitement l'intégrer. Et donc, on a essayé de créer cette hybridité-là. Et le meilleur terme, si on doit choisir un terme aujourd'hui, moi je dis que c'est du, et c'est dur à entendre à l'oreille, mais ça c'est très facile à lire, mais c'est du hip-hop, donc pas hip-hop,
okay.
C'est un P à la place du H, qui fait qu'il y a un mix entre okay. Le hip-hop et la pop. Et je trouve que c'est assez cool.
Une belle définition en tout cas.
Voilà.
Et alors, Basile Palace, c'est un collectif ou une bande de potes?
Et c'est un projet solo, sauf que j'ai beaucoup de mal à le considérer comme tel, parce que c'est mon meilleur ami depuis qu'on a 4 ans. J'ai créé une boîte pour produire le projet avec lui et mon meilleur ami qui s'appelle Clément Savoie, qui est membre du groupe Kids Return. Les filles et les voix de choristes qu'il y a sur mes refrains, souvent que j'aime beaucoup me faire accompagner de voix féminines parce que j'ai une tessiture de voix qui est un peu grave pour les mélodies que je compose et parfois ça apporte vraiment quelque chose, surtout sur des chansons d'amour ou quoi. Je trouve que déjà les voix un peu plus aiguës que les miennes, je les trouve formidables, puis c'est des voix que je trouve formidables chez mes amis. Et les filles qui chantent avec moi sur mes chansons, il y a Mélodie Ada, Edouna Zajdorman, Billy Chedid, Yasmine Lavoine, c'est mes meilleures amies, toutes. Donc,
c'est un peu les deux alors.
C'est un peu les deux. Genre. Et puis à la fois, je rencontre des gens, mais ça devient mes amis. Mon manager, je l'ai rencontré il y a 3 ans, c'était mon attaché de presse. Et puis au bout de 3 semaines, on se faisait des câlins et on était en mode, on est potes en fait. Et moi, c'est important pour moi. Quand je tourne avec mon meilleur ami depuis qu'on a 4 ans, qu'on prend des trains. On arrive, on a une loge, moi je lui dis, on n'aura jamais de loge, attends, on va faire la première partie et tout. On arrive, moi je vis un rêve. Lui, il a un peu plus l'habitude, il a déjà un peu tourné, est un peu en mode, ça va, c'est normal.
Il est déjà blasé.
Pas encore, mais il revit un peu les débuts avec moi, c'est hyper cool du coup, parce que moi c'est les premières fois que je fais une tournée, que je suis en date, en première partie, hors de Paris, d'où je viens, et je fais que de rayonner, moi là je suis quand même malade.
C'est du bonheur.
Ah ouais.
Et je voulais savoir, est-ce que tu continues à travailler ta diction? Et si oui, as-tu changé de stylo?
J'ai changé beaucoup de fois de stylo, si je dois être honnête. Oui, c'est... j'ai lu un jour, petit, j'étais très fan d'Eminem, et j'avais lu que il faisait deux choses, c'est qu'il lisait le dictionnaire pour savoir utiliser des mots que personne d'autre ne pourrait utiliser, et donc trouver des rimes que personne n'utiliserait. Donc j'ai commencé, je me suis arrêté vers la lettre C, je me suis dit c'est un malade. Mais je me rappelle que le premier mot que j'avais écrit, c'était Abaca, qui est un arbre d'Afrique australe. Et je m'en souviens, 15 ans plus tard, c'était, je pense, le premier mot, puisque Abaca, ça commence par AB, donc à mon avis, c'était plus du dictionnaire. Et donc, j'ai appris ce mot. L'autre truc étant qu'il s'entraînait à faire de la diction, comme Ace LMC, qui est un rappeur, et qui rappe très 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 vite, qui a, je pense, à peu près le record de vitesse. Ça me fascinait beaucoup, la vitesse. J'ai changé de stylo parce que j'en ai cassé des milliers, mais s'entraîner avec un stylo dans la bouche pour travailler sa diction, ça marche vachement bien. C'est comme réciter ses textes en théâtre ou en musique en courant. C'est comme rajouter une minute dans un round de boxe pour s'habituer à ce qu'il y ait une minute de moins. ça fait que dès qu'on enlève le stylo, bah, on a l'impression que c'est 10 fois plus facile. Et c'est juste parce qu'on a davantage forcé. Et ça, plus on force à l'entraînement, plus ça semble facile en match. Disons ça, si on parle du sportif un peu.
Et j'ai vu Palace, donc c'est un de tes premiers titres. Il est un peu emblématique. Et qu'as-tu fait évoluer depuis ce titre-là pour toi ?
Bah alors, je pense que le principe. Alors, il y a pas mal de choses qui ont évolué. La première chose, c'est simplement, je pense, dans les thèmes et dans. Je sais jamais, parce que dès qu'on dit qu'on est mature, c'est souvent qu'on l'est pas tant que ça, et j'ai l'impression d'être plus mature. Donc... Mais je me suis souvent rendu compte que les gens qui me disaient je suis mature, je me disais bof, du coup, j'ai peur de dire que je suis mature, je me posais la question.
Faut laisser dire les autres, en fait.
Oui, voilà, c'est plus ça. C'est... Est-ce que les gens me disent, mais de ce qu'on m'a dit, du coup.
Ouais.
Je pense que ce qu'il y a comme différence, sûrement, c'est que Palace, c'était un peu la présentation du projet en un morceau, c'est-à-dire que vraiment, c'est des couplets purement rappés sur une instru qui est purement une instru potentiellement rap avec juste un beat. Et le refrain, c'est vraiment. Presque plus que de la pop, de la variété, avec une voix féminine qui chante, et pas du tout comme les rappeurs l'utilisaient avant, souvent en R&B, avec des mélodies très R&B, c'est vraiment une mélodie pop, variété. Et donc, c'était un peu la carte de visite du projet au début, quand on allait démarcher des acteurs, qu'on montrait un peu ce qu'était le projet, bah, c'était la meilleure manière de le faire, il y a vraiment du rap, il y a vraiment de la pop, pour autant ça marche, elle marche, donc c'est cool. Ce qui a changé sûrement, je pense que c'est qu'à l'époque, on était très très, bah, dans les années 2018-2019, il y avait The Weeknd qui avait sorti After Hours, très synthwave, années 80, beaucoup de synthé, et je trouvais ça incroyable. Et moi, ma mère adore la variété des années 80, donc j'en ai des gros synthés qui rentrent et tout. Mmh. On sent qu'à l'époque, quand c'est arrivé, les synthés, ils étaient surexcités. Là, genre, on sent que t'as que des mélodies de malade, on sent que les gens étaient comme des fous. Ouah, c'est dingue ce truc. Et du coup, on a gardé beaucoup de synthés, parce que notamment mon pote, lui, il est claviériste au départ, donc il a l'habitude de composer. Mais on s'est associé avec des gens, notamment Jeremy Lewis, qui s'appelle Dreadful en nom de producteur, qui produit pour A2H, pour Kimber Rose, pour Poupy, qui est très très fort, c'est un mec très très doué, qui nous a beaucoup aidé sur l'album en DA. Et lui, qui est beaucoup plus bah, dans la guitare au départ, il compose beaucoup plus à la guitare qu'au clavier, il est multi-instrumentiste, mais du coup, je pense qu'on a eu davantage de diversité d'idées de composition. Et l'autre truc principal qui a changé, c'est les thèmes, tout simplement. C'est que j'ai voulu faire mon EP, c'était un peu une carte de visite, et les chansons, elles étaient assez génériques finalement, à part Cartoon, qui était biographique, où je parlais de mes grands-parents, de mon père. Les autres, c'était des chansons d'amour, où finalement, je me nourrissais autant de ce que j'ai pu ressentir dans ma vie que de ce que vivaient mes potes. J'écris certaines chansons pour des potes, en les voyant, en essayant de mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient, alors qu'eux n'avaient pas la volonté de les exprimer. Et donc, c'était... Et c'est ce que je trouve génial avec les chansons en général et les chansons d'amour, c'est qu'il n'y a rien d'identifiable particulièrement, il n'y a rien de biographique. Enfin, il y en a sûrement, mais on n'est pas obligé en tout cas. Le but, c'est que n'importe qui s'identifie à la chose tout en ayant vécu quelque chose de totalement différent. L'important à la fin, c'est que ça touche les gens.
Oui.
Et là, cet album-là, en l'occurrence, moi j'ai perdu mon papa il y a 3 ans de façon très subite. J'étais en train de composer un morceau qui était censé être un morceau d'amour au départ, j'avais la mélodie. Et puis j'avais les deux premières phrases qui étaient « Attends-moi juste un peu, un jour je serai heureux ». Donc c'était au départ pour faire une chanson d'amour. Et puis d'un coup je me suis dit « Mais bon, déjà j'étais en train de le faire quand j'ai appris sa mort ». Donc vraiment ça, c'était impressionnant comme moment de musique. Et enfin de vie surtout. Mais du coup musicalement ça m'a perturbé. Pendant 2 mois j'ai pas réussi à remettre le nez sur cette chanson parce que c'était trop bizarre. Mais je me suis dit en fait les chansons d'amour ça ressemble à des chansons de deuil parfois. Et en fait ces deux premières phrases que j'avais écrites en pensant à faire une chanson d'amour générique, c'était très adapté à ce que je pourrais dire à mon père. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était hyper important pour moi finalement de revenir à quelque chose de plus narratif et de plus biographique. C'est en ça que je dis que c'est peut-être plus mature, dans la mesure où j'ose plus me montrer et montrer de moi, là où j'étais un personnage très générique qui parle d'amour en étant un peu en désillusion tout en faisant une fête. Bah là, dans cet album, je donne mon avis sur des choses, je raconte beaucoup plus de choses biographiques. Et dernier truc qui a changé, j'ai fait une réponse très longue, désolé. Dernière chose qui a changé, c'est qu'on a voulu faire un hommage, vu que c'était un album que je voulais être comme la transition entre mon enfance et mon âge adulte, pour rendre hommage à mon père, à mon petit frère aussi qui a vécu ce décès et qui est beaucoup plus jeune que moi. C'est un album qui est important pour moi, pour lui, pour ma maman, évidemment. Et donc c'était de faire un hommage aux années 2000 qui m'ont bercé. C'est avec le rap des années 2000-2010 que moi j'ai vraiment commencé à être à fond dedans. Et donc mon premier EP sonnait peut-être un peu plus référence années 80. Aujourd'hui, on va être dans des références beaucoup plus années 2000. Et je suis content de ça parce que c'est des années que j'ai bien bien kiffé et ça me fait bien plaisir qu'il y ait un petit revival des années 2000 en ce moment. C'est sympa.
Je ne savais pas, merci.
Voilà, bah, j'espère qu'il arrive en tout cas. Sinon, je suis un peu embêté.
T'es peut-être un précurseur dans l'anticipation.
Il y a des cycles dans la musique,
oui, bien sûr.
De 20 ans, 30 ans. Mm-hmm. Et là, les gens qui ont grandi dans les années 2000 commencent à avoir 30 ans. La nostalgie, elle pointe le bout de son nez. Ouais. J'apprends un petit truc à jouer.
Ah, ok.
Voilà, mais c'est pas pour ça que je le fais, c'est parce que ça me plaît. Mais je me dis, bah, c'est pas impossible que ça commence à arriver des projets de, qui ont cette volonté-là.
Et de quoi es-tu le plus fier sur les morceaux actuels ? Les mélodies ou les textes ? Sacrée question.
Et c'est marrant parce que bah, moi, en venant du rap, on m'a souvent parlé de mes textes la plupart du temps, mais j'ai toujours dit que, et c'est pour ça entre autres que j'ai voulu créer Basil Palace, que le moment que je préfère dans la phase de composition avant tout, c'est de trouver la mélodie. Le moment où, avec les accords, moi je compose très rarement les mélodies sans les accords, donc souvent je suis en studio avec mon ami, et le moment où ça arrive et qu'on se regarde et qu'il y a un peu le « oh là c'est cool », c'est le moment qui me fait le plus plaisir, où il y a le plus de frissons qui arrivent et tout. En revanche, je pense que bah, le texte, il m'aide beaucoup plus dans la vie de tous les jours parce que c'est une vraie décharge, on parle souvent de ça comme truc. Moi, ça m'a... Basil Palace, c'était l'idée aussi de pas juste appeler le projet Basil, c'était que c'était une version de moi améliorée qui prenait mieux les choses.
Un avatar.
Ouais, voilà, qui... Vous voyez, qui, et on avait utilisé l'expression, mais un filtre pop sur la mélancolie un peu. C'est-à-dire, moi, je peux être très... Je suis hypersensible, TDAH, borderline, c'est pas ouf. Maintenant, je suis beaucoup mieux pris en charge et j'ai compris plein de choses sur moi, mais ça a mis du temps et jeune, parfois, on peut... ne pas se rendre compte, ne pas se diagnostiquer, etc. C'est pour ça que j'incite tout le monde à en parler, parce que c'est pas du tout une honte, et il y a vachement de libération autour de ça en ce moment, je trouve ça super, parce que c'est pas du tout un tabou, c'est des maladies, c'est comme si on avait peur de parler d'un cancer ou d'un rhume, bah, ça n'a pas de sens. Mais donc les textes, ça l'a toujours été, bon aujourd'hui je vais mieux, donc j'ai presque peur de plus raconter grand chose, mais on va voir
si je vais dire ça tout de suite. J'ai des questions, sinon.
Cool. Mais donc les textes, c'est peut-être ce qui m'aide le plus au jour le jour, mais donc, à la fin, de quoi je suis le plus fier ? Franchement, ce dont je suis le plus fier, c'est que ma maman chante sur une des chansons et mon petit frère sur une autre, les deux en hommage à mon papa. Et que le fait de l'avoir fait, ma mère, elle rêvait d'être chanteuse. J'essayais du coup pour elle. Elle m'a pas du tout poussé à le faire, mais c'était son rêve et elle l'a pas fait. Et du coup...
Elle le fait un petit peu à travers toi, je pense.
Bah du coup, bah, moi, mon grand truc, et je l'ai écrit dans une chanson qui n'est pas sortie encore parce qu'elle est... pas assez bien pour ma mère, et je... on peut pas en faire 60 des chansons sur ses parents, et je veux qu'elle soit, voilà, faut pas que je la loupe celle-là, et je vais, et dans cette, mais il y a une phrase de moi qui dit, un jour elle sera sur scène, vous l'entendrez chanter, et elle l'aura pas fait avec sa chanson à elle, mais elle est choriste sur mes chansons, et bah c'est ça, c'est, ah, quand je l'ai vu pleurer au studio, parce que c'était une chanson sur mon papa, mais que j'étais avec mon pote, qu'on riait en même temps, parce que c'était beau de l'avoir chanté. Ah non, c'est con, ça semble un peu nier aux voix, mais c'est important, quoi.
C'est l'émotion, c'est famille, très important, oui.
Voilà, c'est un projet familial, c'est vraiment le cas, quoi. C'est pas du mytho.
Et donc sur l'album qui s'appelle 22 mètres carrés.
Exactement.
Qui arrive le 26 mai prochain.
Le 16 même.
J'ai dit quoi ? Ah pardon.
26,
oui,
mais c'est
oui,
pas un problème. Non,
c'est 16, en plus je l'ai marqué.
Parce que je suis impatient.
Je comprends. Et, bah, t'as retrouvé tous les singles déjà sortis, parce que j'ai vu, il y a Lidl qui est sorti, Toi et moi,
oui.
Dernier Round,
1000 morceaux et Palace, qu'on a intégré à l'album.
Ok.
Donc oui, parce que Palace, bah, comme je vous ai dit, c'était un peu la carte de visite du projet au départ. C'est le premier single qu'on a composé, c'est celui à partir duquel on s'est dit, il y a quelque chose à faire, on a envie de faire un projet qui ressemble à ça. Donc c'était essentiel pour moi de la remettre, d'autant qu'en concert, elle a quand même un effet, je vois, il y a un truc qui se passe un peu à chaque fois. Mm-hmm. Tout le monde l'a vu, mon premier label m'a signé en l'écoutant une demi-seconde en disant « ok, on signe ». C'était bon, j'ai eu de la chance aussi peut-être, mais ça voulait dire qu'ils ont senti qu'il y avait un potentiel cool. Et donc je tenais à la remettre, mais c'est la seule qu'on retrouve parmi les anciens singles qui étaient sortis avant. J'ai intégré qu'une chanson qui précède, qui était dans l'EP à l'album. Et sinon, non, il y a 5 titres totalement inédits.
Okay.
Et donc les singles qu'on a retrouvés qui se sont égrenés. Okay. Et j'ai pas exactement de date, mais je peux vous filer un peu l'info. J'ai une réédition dans pas si longtemps. Je sais pas, c'est-à-dire amplifié un peu là.
Alors avec des remixes ou d'autres titres ?
D'autres titres, les deux un peu. On a travaillé là-dessus et c'est déjà. C'est en cours.
Ok. Merci pour cette information.
Plaisir.
Et sur le titre dernièrement sorti, intro, tu veux nous apprendre à prendre soin de qui ? De la famille, des amis, de la famille ?
C'est pas évident. En tout cas, je l'ai appelé intro. Bon, c'est pas très original, je vous le concède. Mais j'étais en mode, c'est tellement une intro à mon album. Je parle un peu d'amour, je parle de grandir, thème classique, je parle de mon père. J'ai écrit la chanson avant sa mort. J'ai rajouté un PS à la fin en disant je l'ai écrite 2 mois avant. Il savait que je voulais le sauver, etc. Et puis c'est, je trouve dans les paroles du refrain, déjà c'est beau parce que c'est une chanson où c'est mon meilleur pote qui a composé la mélodie, ce qui est rare. C'est mon autre pote qui a composé les paroles. C'est un troisième pote qui a composé la ligne mélodique, et c'est un troisième pote qui avait composé les accords de la chanson. Et donc c'est les quatre personnes qui ont le plus fait vivre ce projet sont ensemble sur cette chanson. Il se trouve que par hasard on s'est retrouvés tous les quatre dessus, c'est pas tout le temps le cas du tout. Et le truc, c'est voilà, la tristesse, c'est les quatre dernières phrases. La tristesse, c'est mon, on s'aimera pour toujours. Je m'en fiche tant que je gagne la course. Et puis, la phrase la plus importante, c'est maman, je t'ai promis que tu serais plus beau un jour. Le palace, c'est ma seule issue de secours. Et c'est le message qui va être transmis à travers mon album. C'est ce que je me suis toujours dit. Il y avait une phrase d'une artiste, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui avait dit « Faites de l'art que si vous pouvez pas vivre sans. »
C'est très fort.
Après, bon... C'est très fort, mais j'aimerais pas que ça empêche des gens qui de faire de l'art non plus. Je sais pas s'il faut être aussi fermé, mais...
Je sais pas si on peut empêcher les gens de faire de l'art.
Non, on les empêchera pas, mais qu'ils se disent pas, je suis pas légitime parce que j'ai réussi à vivre sans. Enfin, moi je connais des gens qui à 25 ans se disent, en fait c'était ça ma vocation, il faut pas les empêcher, il faut pas qu'ils s'empêchent mentalement de le faire. Mais moi c'est vrai, depuis que j'ai 4 ans, j'ai jamais arrêté d'écrire des choses, de la prose comme des trucs. J'ai toujours cherché à créer, j'ai toujours voulu faire des trucs et c'est ce que j'ai dit, c'est ma seule issue de secours parce que je pourrais réussir plein de choses, mais... Si je peux pas les exprimer et les partager avec des gens qui pourraient les aimer, il manquera un petit truc dans ma vie. Je m'y ferai, c'est comme ça. Mais,
un grand
mais,
truc,
mais oui. j'aimerais bien pouvoir le.
Et en live, tu es accompagné par Alex au clavier et d'autres musiciens ou c'est
alors,
formule duo actuellement.
Actuellement, on est en formule duo parce qu'on commence à faire de la première partie. Historiquement, il y avait un backer avec moi. Ce qui est génial parce que c'est pareil, encore une fois, meilleur ami, je répète, mais bref. Le problème, c'est que ce mec s'appelle Abraham Wappler, qu'il est extrêmement talentueux, voire beaucoup trop, c'est presque énervant, vous allez voir. Mais il est un peu en train de devenir beaucoup trop connu pour être mon backer, puisqu'il est acteur à côté.
Ah, ok.
Et au-delà de ça, tout simplement, on s'est rendu compte que c'était un peu une sécurité que je me mettais aussi d'avoir un backer pour pas affronter totalement le stress que ça peut être. Et que finalement, depuis que je le prends plus, alors qu'il est disponible en ce moment, il aurait pu venir. Et on en a parlé, il m'a dit « Essaye tout seul ». Et en effet...
Du coup, il a moins de boulot.
Lui, il est tranquille, là.
Ok.
Puis toi, c'est pour ça, il peut pas aller, il va au festival de Cannes. Non, mais c'est genre sa premier rôle du nouveau Clapiche. Puis Star Wars.
En effet.
Enfin bref, c'est dans la série Star Wars, bref. C'est voilà, c'est pas qu'un backer quoi. Ça va être compliqué de le garder toute la vie. Et puis là on est en. Du coup on tourne à deux avec mon meilleur pote Alex, donc qui est le compositeur. J'avais un backer historiquement. C'est possible que je refasse un show à la rentrée, on est en train de préparer un nouveau show. Ce sera peut-être aussi de la batterie. On est en train de roder, de réfléchir en termes de scénographie aussi, un truc qu'on a assez peu travaillé jusqu'à maintenant. Mais là voilà, l'objectif c'était de prendre de l'expérience et moi j'avais très envie de m'ouvrir au public seul, enfin pas seul, il y a Alex avec moi mais il est musicien donc il est un peu caché derrière son instrument comme on peut dire et je suis vraiment du coup seul avec les gens et pour leur partager les choses et je trouve ça super parce que c'est génial, j'ai adoré toutes mes dates avec mes backers, je les aime infiniment et j'aime infiniment partager ça mais ça pouvait avoir tendance à faire que je vivais autant le moment avec eux qu'avec les gens, alors que malgré tout, c'est quand même super de vivre avec le public. Et c'est dommage d'un peu trop être entre potes, alors que les gens sont là et pour qu'on leur partage des choses, et vu les thèmes de mes chansons, ça compte plus pour moi que les gens les partagent. Et j'ai été très agréablement surpris par le fait de pas avoir de backer, et parce que je me sentais limite en fait moins stressé et mieux, parce que tout repose sur moi, et que si je sais que j'ai bien travaillé, en fait, je suis serein.
J'avais une question par rapport au clip. Ouais. Un bon pulse pour toi, c'est combien de pièces?
Ah merde, parce que alors c'est drôle en plus parce que c'est marrant parce que c'est donc Valentin Pitard qui a réalisé ce clip, c'est lui qui a réalisé mais tous les clips liés à mon album. Il est incroyable. Pareil, j'ai rencontré l'année dernière, il y a à peine un an, on est devenu tellement amis, il est exceptionnel et très 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 talentueux. Et je déteste les puzzles. Et j'en ai genre jamais fait, genre c'est un, je crois que mon cerveau est genre c'est pas ça, c'est, y a un truc, j'étais nul en maths, pour moi il y a un lien potentiel, c'est une organisation du cerveau qui est pas la bonne pour faire ça. Et du coup je déteste les puzzles,
okay.
Mais du coup pour un bon puzzle c'est un 10 pièces, parce que, comme ça j'arrive à le finir.
Bonne réponse, ça me va.
Voilà.
Et là c'est la dernière date avant les vacances.
Avant les vacances, mais quasiment, parce que le 5 juillet on fait la première partie de Soprano et Kenji au festival Zénith Open Air, donc là bon... Un peu les chocottes, beaucoup d'excitation, mais là, ça va être... Il risque d'y avoir du monde, vu que c'est Soprano et Kenji après, ça risque d'être une belle expérience.
Et j'ai une dernière question. Alors, j'ai une baguette magique, et je te la prête.
Merci beaucoup.
Et avec ça, tu as la possibilité de travailler et d'enregistrer un titre avec un artiste. Alors, je vais te citer des artistes, tu vas me dire lequel tu vas choisir.
Je peux en choisir qu'un.
Ah, Normalement, mais après, si tu veux,
on verra.
Alors, il y a Aurel San, Eminem, MC Solar, Diams, Lala Ace et Meryl.
Bon, bah, j'ai presque envie de dire à chaque fois, parce que c'est que des artistes que j'aime beaucoup. Meryl, okay. Je l'ai vu en live il y a pas longtemps en plus, sur son show, sur son album, elle est incroyable sur scène. Par rapport aux références de l'album, je vais dire Diams, parce que le rap années 2000, je pense qu'elle l'incarne hyper bien. Et il y a des moments vraiment où on s'est inspiré de comment elle le mettait en énergie. Et puis voilà, bah Eminem et Aurel San, c'est deux de mes rappeurs préférés. C'est mon rêve. Aurel San, je trouve que c'est lui qui peut-être arrive le mieux à être dans l'interstice que j'essaye de créer aussi, de faire vraiment de la chanson, vraiment de la pop et vraiment du rap. Il est vraiment adoubé par les rappeurs comme par les chanteurs et c'est une force. Mais là, je dois dire qu'en ce moment, avec les derniers albums et tout, MC Solar, c'est quand même, bah, historiquement, c'est exceptionnel. Peut-être, avec quelques-uns, c'est toujours dur d'en citer qu'un, mais le meilleur lyriciste français. Et les trois petits EP qu'il a sortis, là, les triptyques cosmiques qu'il a sortis sur les dernières années, c'est incroyable la manière qu'il a eu de se mettre, je trouve, au goût du jour, tout en gardant le ton de la voix, l'élégance des paroles. C'est exceptionnel d'arriver à se renouveler comme ça. Okay. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça me rendrait fou de me dire je peux faire un titre avec MC Sola et qui serait moderne et qui serait plus...
Bon, on va lancer la proposition.
Vous avez possibilité. Merci.
Mais plus fort.
La vie m'a mis au calme. Depuis plus rien ne compte. Je viens d'en bas comme l'hypercute. Mais je vis que des hyperchutes. Je me prenais pour Mike Tyson. J'attends jusque la cloche sonne pour revenir dans mon coin. Jusqu'au dernier round. Me répare et enfin que je me prépare à encaisser tous les coups pour rester debout jusqu'au bout. Moi je suis toujours sur ma garde, mais les problèmes par mes gardes arrivent en enchaînement. Et j'ai pas l'entraînement pour contrer tous ces coups-là. Et ça fait très beaucoup mal aux quatre coins du ring. Je me prenais pour le king, maintenant j'ai plus que dire et je voudrais juste tenir. Jusqu'au dernier round.
Basile Palace dans Mes Plus Forts.
Mes Plus Forts.
Kenshi Yudezu, c'est le coup de cœur de la semaine de jeudi de Radio Mono.
Kenshi Yudezu, né le 10 mars 1991 à Tokushima, au Japon, est un musicien, auteur, compositeur, interprète, réalisateur artistique et un illustrateur japonais qui a commencé à diffuser la musique de Vocaloid sous le nom de scène Hachi. En 2012, il a fait ses débuts sous son vrai nom, sortant des chansons avec sa propre voix. Son titre, Peace Sign, est également l'opening de la saison 2 de My Hero Academia. En 2018, il compose et chante la chanson thème du film Les Enfants de la Mer, intitulée Umi no Yurei, ou littéralement Le Fantôme de la Mer. La première tentative de Yonezu dans la musique eut lieu en 2006, cours de sa deuxième année de collège, où il forma un groupe avec son ami Hiroshi Nakajima, appelé Late Rabbit Eda, dans le but de jouer pour le festival culturel de l'école. Il en était le chanteur, le compositeur et le guitariste occasionnel. tandis que Nakajima était le guitariste. À la fin de 2007, il a créé un site web pour le groupe affichant des paroles de chansons et de nouvelles. Yonezu a écrit des chansons pour le groupe et a mis en ligne 24 chansons originales entre avril 2008 et mars 2009 sur le site web de partage de vidéos Nico Nico Doga, sous le nom de Hachi. Aucune des vidéos n'a été largement écoutée. La plus écoutée, Belzebub, n'ayant reçu que 23 000 vues. Yonezu a créé son blog à cette époque et l'a appelé Tekito Eda.
Mais plus fort avec Kenshi Yonezu. Mardi 6 mai dernier, le groupe Loup d'Auberger a joué en live dans un camion en circulation dans le centre-ville de Châlons-Champagne entre 15h et 17h30. Si vous avez été témoin de la scène, que vous êtes en possession d'une ou plusieurs vidéos de l'opération, envoyez-les au groupe par mail à loupdeberger.musique@gmail.com. Plus d'infos sur la page Instagram Loup d'Auberger. Un bon moyen de se faire connaître du plus grand nombre à Châlons-Champagne. Et peut-être une tournée dans d'autres centres ville à venir.
Yeah.
C'était Lou de Berger dans Mes Plus Forts.
Mes Plus Forts.
Il bat tous les records. DJ Snake a rempli le Stade de France, puis l'Accor Arena dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mai. 80 000 personnes au Stade de France et 20 000 à l'Accor Arena. Des bus spéciaux faisaient la liaison pour les fans entre les deux lieux. Snake, qui est arrivé en RER au Stade de France, il vous donne un prochain rendez-vous dans notre région. Ça sera au Cabaret Vert à Charleville-Mézières, jeudi 14 août. Vous y serez ?
To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down.
C'était DJ Snake dans Mes Plus Forts. Le festival Les Moissons Rock à Jevigny est en approche. Pour rappel, rendez-vous du mercredi 28 au samedi 31 mai pour les 30 ans du festival. Je vous propose de réécouter la présentation du programme avec Thomas Coquillard et Laurent Charnoux des Moissons Rock.
et Thomas pour les Moissons Rock. Merci de nous accueillir ici au sein de la brasserie Orgie pour annoncer cette nouvelle édition des Moissons Rock, la 30e. Une année particulière, j'imagine, pour vous aussi, pour plein de raisons.
Ah oui, elle est particulière parce que, premièrement, comme l'a expliqué Jean-Loup tout à l'heure, ça a été quand même assez compliqué à monter cette 30e édition et il y a encore pas mal d'incertitudes. Et en même temps, cette excitation qu'on a toujours depuis 31 ans, en fait. Et puis, elle est particulière parce que Thomas en atteste, hein, il est juste à côté de moi. Et effectivement, on est dans cette phase de transition dont on a parlé depuis quelques années, ouais, et qui s'accélère là sur ces dernières semaines.
Ouais, ça devient même concret, là, cette fois, Thomas.
Ouais, ça devient concret. C'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant qu'on a entamé la passation. Et là, cette année, c'est l'heure. Mais toujours avec le soutien des plus anciens. Et ouais, ça, c'est important. Ça reste dans l'ADN des Moissons, la transmission et la famille qui font cadre.
Ils seront jamais très loin.
Et en plus, c'est d'une facilité déconcertante. C'est-à-dire que je faisais partie des gens qui pouvaient douter justement de comment on pouvait communiquer entre nous, entre quelqu'un d'une génération beaucoup plus jeune que celle de Jean-Louis et moi. Et en fait, ça se fait tout à fait naturellement. C'est très facile. C'est vrai qu'avec, c'est pas parce qu'il est là, mais c'est très facile de communiquer avec Thomas. On peut dire des choses, on peut ne pas être d'accord, mais c'est, il n'y a jamais d'éclat de voix. On essaye d'expliquer, d'argumenter. C'est très facile. Merci.
Non, mais il y a une sorte de respect mutuel entre les générations, je trouve, qui est assez, assez importante aux Moissons et qui est, voilà, entre que ce soit mon père Jean-Louis ou Laurent et les plus jeunes, ils nous écoutent, nous on les écoute, mais c'est vraiment un échange avec du respect et du coup c'est ce qui fait que c'est assez facile en fait, c'est naturel.
Ce qui fait que là on a une édition qui est très hybride avec pas mal de programmation à la fois historique des Moissons Rock et puis aussi donc de la nouveauté. Ça va être toi qui vas prendre ça en charge par la suite, j'imagine, au niveau de la programmation. Justement, tu vas préserver ce patrimoine aussi historique des Moissons Rock. Comment tu vois les choses, toi?
Alors après, sur la programmation, c'est vrai qu'on s'en est pas encore parlé avec Laurent. Pour l'instant, moi, j'adore bosser avec Laurent et je pense que voilà, je parle pas en son nom, mais on a une façon de travailler ensemble qui est assez cool. Donc je sais pas si sur la programmation, ça sera moi qui sera totalement en charge de ça, et je sais pas si j'ai aussi l'envie d'être 100% là-dessus. Mais j'ai l'impression que comme moi j'ai été formé par Laurent et que j'ai été élevé au son des Moissons, en fait moi la façon que je ferai la prog est la même que Laurent en fait. Sur les esthétiques, sur les groupes et les univers où on n'irait pas, sur ceux où on va aller. Donc voilà, c'est.
Ça veut dire que l'ADN des Moissons Rock sera toujours préservé, quoi, en fait.
Je pense que oui.
Ouais. Et ça fait du bien entendre aussi pour toi, j'imagine.
Oh oui. Et puis, il vient de le dire, il a grandi avec les Moissons, il est né même pendant les Moissons. Enfin, je veux dire, il a un certain nombre d'années maintenant. Ouais. Et il a toujours connu ce que Jean-Louis lui faisait écouter, ce qu'on lui faisait écouter. Il est monté sur scène plusieurs fois avec certains groupes. J'ai un souvenir de Chaka Ponk en 2009. Voilà. Il connaît complètement l'âme des Moissons. Peut-être que oui, il y aura une évolution dans l'esthétique musicale, mais elle est normale. Et justement, c'est ce que j'apprécie énormément, moi, depuis ces 2-3 ans, c'est que Thomas et les autres m'apportent un œil complètement novateur. Moi, je suis de la génération des années 70, quoi. Donc, j'aime les trucs comme Kokomo. Et Thomas a une vision un peu plus large que la mienne. Et surtout, il connaît énormément de choses, déjà. Donc, il me fait un rêve, c'est un bonheur. Voilà.
Bon, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On peut rentrer dans le vif du sujet, dans le concret, avec cette programmation que vous venez de nous dévoiler, si on peut en parler un peu aux auditeurs aussi.
Bien sûr.
Alors, le mercredi, c'est une journée particulière qui, là, est à destination du jeune public, en fait.
Ouais. Alors, en fait,
la famille, en fait.
De la famille, ouais, c'est ça. C'est une journée. Donc, initialement, historiquement, on la faisait le jeudi. On faisait une soirée concert le mercredi, ensuite soirée journée famille le jeudi, et 2 soirées concert. Là, ce qui change un petit peu cette année, c'est que on commence par la journée famille le mercredi après-midi, et ensuite on enchaîne sur 3 soirées de concert type festival. Et donc sur la première soirée, la première journée jeune public, on aura la chorale des Petits Maillots Rouges qui revient. Ils n'étaient pas venus l'année dernière, mais il y a 2 ans. Donc là, ils vont reprendre des standards, des morceaux de groupes qui ont marqué l'histoire des Moissons Rock. Donc, Cine Sémilia, Aston Villa, Deportivo, tout ça. Donc ça va être super chouette. Donc 150 gamins à peu près sur la scène. Et juste après, un groupe étiqueté jeune public qui s'appelle La Vache qui Rock, qui était déjà passé chez les amis de la Coupe des Champs en 2022, il me semble, sur leur festival jeune public. Découverte aussi pour les familles.
En entrée gratuite, je tiens à préciser.
En entrée gratuite pour le mercredi, effectivement. Jeudi, là, c'est la soirée qu'on peut qualifier de rock, des boissons rock.
Ouais, parce qu'effectivement, on a toujours cette volonté de garder un créneau rock, même si on sait quand même que c'est déjà très difficile de trouver des groupes rock qui fonctionnent vraiment en France, je veux dire, qui drainent du public. Et puis surtout, après, voilà, on a évoqué les coûts, les disponibilités. Donc en l'occurrence, là, on a cherché tout de suite dans l'émergent et Thomas m'avait parlé d'un groupe qui s'appelle Madame. Moi, je ne le connaissais pas, c'est Thomas qui m'a invité à l'écouter. Et jackpot, quoi, je trouve ça effectivement très intéressant. Et puis voilà, voir aussi trois jeunes filles sur scène, c'est bien. Ça change un petit peu cette image masculine du rock.
Et c'est important, je pense que là, il y a un mouvement d'ailleurs qui est né. Hein.
Style.
Exactement, plus de femmes sur scène et puis dans les métiers du spectacle. Là, c'est parfait. Là, on coche toutes les cases qui vont bien. Quoi. Si on continue de dérouler cette soirée du jeudi.
Et dans l'ordre de passage, il y aura ensuite Kokomo. C'était assez magique, ouais. Une présence sur scène, cette voix, la Robert Plant, la Led, c'est assez exceptionnel. Et c'est tellement exceptionnel que leur carrière s'est envolée. Là, je suis allé voir la carte.
Ah oui, vous les aviez fait venir au moment en fait, où commençait à monter fort.
Un tout petit peu, c'était complètement un groupe émergent. Et là, maintenant, ça ne l'est plus. Hein, ça remplit vraiment des belles salles. Hein, la carte à Rhin, c'était rempli. Et c'était un super concert. Ce qui m'a décidé vraiment à faire le forcing pour essayer d'avoir ce groupe-là. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure dans la présentation, on a longuement évoqué Yo Delis, et puis je me suis dit, mince, c'est quand même peut-être le moment de le faire. Il était dispo, le lendemain, il a une date un peu plus loin, donc voilà, Timber Routing, c'était parfait. Et puis, voilà, c'est un artiste vraiment reconnu au niveau national, donc on s'est dit, voilà, ça ferait une jolie tête d'affiche.
De ne pas pouvoir le voir à la cartonnerie, là ça fait une belle date de rappel. Quoi.
Et puis j'espère que ceux qui l'ont vu à la cartonnerie se déplaceront jusqu'à Juvigny pour le voir de nouveau, d'autant plus que ça va être une nouvelle créa. C'est-à-dire que le concert qui a été à la carto, là, ces jours derniers, c'était une semaine, je crois, va évoluer vers un côté un peu plus électro.
Ça permettra de voir effectivement deux esthétiques pour Yo Delis.
Et puis sur le dernier groupe, alors Thomas m'en parlait depuis un petit bout de temps, et puis là, il est revenu à la charge, et c'est vrai que je ne trouvais pas, enfin nous ne trouvions pas, et il me dit mais pourquoi pas Ludwig von Art Home Artisch. Et puis bingo, quoi, ils étaient dispo, une seule date dispo en plus sur ce week-end-là, donc voilà, ça s'est fait très facilement. Un peu à l'arrache, hein, c'était il y a deux semaines. La programmation là est close depuis tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Ouais, vraiment bravo. Et là, ça veut dire que ça va évoquer énormément de souvenirs pour les plus anciens.
C'était un peu le but, ouais. Effectivement.
Voilà, pour être complet sur la journée du jeudi, il y a aussi des artistes de la région.
De la région, c'est ça, donc qui sont un petit peu dans la veine de Ludwig, mais un peu plus actuelle, mais avec cette esthétique boîte à rythme des années, du punk des années 80-90, et c'est News from the Nowhere. Take a deep breath. qui est soutenu par la cartonnerie et qui participe aux Inouïs du Printemps de Bourges, les auditions. Donc un groupe quand même émergent, avec une chanteuse lead, un guitariste et une boîte à rythme derrière, donc ça sera bien intéressant de voir ça.
Vendredi, là, on a l'esthétique festive des Moissons Rock, qu'on connaît depuis quelques années, justement, qui a souvent des réussites, d'ailleurs. Et là, pour le coup, vous avez repris les paris sur des valeurs sûres, quoi.
Mais en fait, c'était pas simple pour moi, cette soirée-là, mais je voulais absolument caler les Marcel, parce qu'on les a jamais fait, en fait. C'est dit qu'on a fait des années durant. Et quand j'ai reçu la proposition, aussitôt nous avons échangé. Et ben, oui, voilà, ça tombait sous le sens. Donc voilà, c'est le premier groupe qu'on est calé très tôt dans la saison, Marcel. Et donc on a bâti autour de Marcel. Et là, je laisse la parole à Thomas.
Oui,
puisque c'est son œuvre.
Après, on est parti sur Volodia, donc un artiste reggae qui est quand même assez connu dans le monde du reggae.
J'ai jamais changé de plan depuis mes jeunes années. C'est toujours le même fond, plus vraiment le même clan. Ouais, j'ai fait que suivre le vent sans faire une marche arrière. J'écris des chansons l'hiver qui sortent qu'au printemps.
On tourne aussi avec un backing band, donc Boubouz All Star, qui est aussi un petit nom dans le reggae français, qui avait tourné à l'époque avec Face Cachée. Donc ça sera pour ouvrir sur la grande scène. Ensuite, on aura donc Marcel et son orchestre. On poursuivra avec Alborosi, qui est un artiste italien qui lui tourne à l'international, qui est vraiment un gros artiste. On s'était même demandé s'il pouvait venir au Moisson. Au final, on a réussi à l'avoir. Le routine tombait plutôt pas mal. Et on finira la soirée avec La Petite Fumée, qui était venue déjà en 2022. Vraiment conquis le cœur des festivaliers. C'est une musique hyper énergique, vachement jouée par des musiciens, donc vachement
ça finit en teuf pratiquement,
ouais, c'est ça.
Et ça garde le public, ça fait retourner d'ailleurs le public.
Et là aussi les régionaux de l'étape,
et les régionaux de l'étape, donc c'est zéro talent.
Strasbourgeois, c'est ça.
Voilà. Donc, il y a un groupe de ska punk qui colle assez bien avec l'esthétique de Marcel. Ils sont super contents de jouer avec eux. Donc voilà, ça va être une journée, une soirée bien mouvementée, je pense.
Mm-hmm. Le samedi, on ne sera pas non plus déçus. Pareil, il y a ce qu'il faut.
On a découvert, c'est Mylène qui m'en a parlé, donc la copine de Thomas, la première. Il s'agit de Sans Nom.
Tous les matins, envie de brûler des banques et de faire l'armée pour leur chour et des tanks. Quand pour les
un artiste rémois que tu dois certainement connaître.
Je connais bien, il m'avait annoncé qu'il viendrait. J'étais dans le secret déjà.
On avait vu ça avec Sylvain du Disproduction, pas du Discop. Effectivement, j'ai écouté, j'ai été très très surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai trouvé ça très très joli, très très bien écrit. J'aime beaucoup.
Son show en plus est vraiment impressionnant.
Et chose toute conne, j'aime énormément son look.
Ouais. Ouais,
il me rappelle un chanteur des années 80 aux États-Unis. Enfin, bref.
C'est vrai que moi, c'est un artiste que je suivais depuis pas mal de temps. Et quand il a un petit peu explosé sur les réseaux, etc., il était vraiment dans une esthétique rap, rap moderne. Et là, depuis quelques années, il est parti sur vraiment plus de la chanson à texte. Il est grand fan de Renaud. Et ça se ressent dans ses textes. Et franchement, il est parti là sur une esthétique qui est vachement cool et qu'on a hâte de voir sur la scène des Moissons.
Il se définit comme cowboy rappeur.
C'est
voilà.
Ça.
Là, il a le look.
Voilà. Et donc, Sans Nom, c'est lui qui ouvrira cette soirée du samedi.
En tant qu'artiste régional, hein,
ouais, ouais.
C'est un précisé, ça y aura donc deux artistes régionaux sur le samedi.
Ouais.
Ensuite suivra donc une artiste réunionnaise, Morgane J.
I'm a soldier, I want man, soldier, what has man.
Que j'ai découvert il y a 3 ans sur un show à l'Olympia sur les musiques des îles. Et en fait, des îles, c'est quand même assez rock. C'est une musique rock, effectivement, un peu créole. Elle joue du banjo électrique et elle a un guitariste de fou qui est un slide de guitare qui est exceptionnel. Et elle a une voix absolument magnifique. Enfin, c'est vraiment une très très belle artiste. Je disais tout à l'heure qu'elle a été révélation du festival Pause Guitare à Albi. Apparemment, tout le monde était scotché. J'ai le programmateur du festival qui m'a dit n'hésite absolument pas. C'est vraiment une très très belle découverte. Elle va faire un carton. Je ne sais pas si elle fera un carton, mais en tout cas, moi, je suis ravi de l'accueillir.
C'est important aussi d'apporter de la découverte au public. Et ça se trouve, dans un an, on en parlera très fort, comme ça a été le cas avec Coco.
Je lui souhaite. Vraiment, elle est bourrée de talent. Et puis, de toute façon, oui, ça fait partie un peu de la volonté des maçons d'accueillir des artistes émergents. On veut continuer, nous, à offrir la scène à des artistes qui, justement, n'ont peut-être pas la chance d'aller sur de gros festivals et de ne pas avoir de visibilité suffisante pour ensuite avoir le succès qu'ils méritent.
Exactement.
Suivra la soirée avec Dubbing qui sont déjà venus en 2018 et avec qui on a un rendez-vous manqué parce qu'on les avait programmés et même annoncés en 2020, l'année du Covid. Et donc on est super content de pouvoir les faire, surtout que c'est eux qui ont un petit peu poussé qui ont accepté de revenir aux Moissons pour les 30 ans.
Alors qu'ils ne prenaient quasiment aucune autre date que celle de l'année dernière qui avait été reportée. Donc on comprend ça quand même vraiment comme un compliment.
Et puis surtout que le public des Moissons n'arrête pas de nous demander de les faire venir tous les ans. On a des centaines de commentaires qui disent l'année prochaine on veut avoir Dubbing, donc c'est chose faite, on est super contents. Et puis on a hâte de péter les 30 ans avec eux.
Et puis pour finir la soirée.
Avec un artiste que j'aime, beaucoup humainement en tout cas.
Oui, c'est incroyable.
Qui est venu, en fait, il est venu avec Trio deux fois, il est venu avec Pause quand c'était encore dans la salle.
Exact.
Et là il vient encore avec une autre formation qui est encore son nom propre, Guise.
Il y aura du travail, il y aura un espace, on sera sur les rails.
Voilà, il va chanter quand même sur des textes un petit peu revendicatifs, un petit peu sociaux, parce que voilà, le monde est tel qu'il est en ce moment et que lui ça chagrine et qu'il a besoin d'expulser tout ça. Et moi j'ai hâte, mais vraiment hâte de le découvrir avec son groupe. Alors ça va partir un peu dans tous les sens, un peu hip-hop, un peu slam, un peu rock.
Puis on imagine qu'il y aura 2-3 chansons de trio.
J'imagine qu'il y aura 2-3 chansons de trio, celle qu'il a écrite. Voilà. Donc je pense qu'on va passer une très très belle fin de festival.
Bon, voilà, et puis pour pareil, représenter la région.
Un artiste de Troyes qui s'appelle Zeppo et que j'ai découvert dans un autre festival à Juvigny.
Tu demandes au firmament pourquoi ce scénario se répète invariablement, mais pas l'ombre d'un vélo. Tu jettes les meubles sur lesquels vous vous êtes aimé, détruis le moindre mug qu'il prenait pour le thé.
Par hasard, comme ça, au détour d'une soirée, il est venu avec sa guitare. Je suis allé le voir, il m'a dit j'ai aussi un groupe avec un batteur, avec un trompettiste. J'ai fait bon, bah allez.
Voilà, le hasard de la rencontre.
Voilà, c'est ça, un chanteur à texte. C'est un chanteur de rue qui a commencé dans la rue. Ouais. Et lui avec une guitare et une super voix et des super textes.
Et là la magie opérait et ça y est, c'est parti maintenant pour les Moissons Rock. Ça c'est vraiment génial. On rappelle les dates si vous voulez bien.
Du mercredi 28 mai jusqu'au samedi 31 mai inclus, soit 4 jours de concerts consécutifs. En rappelant que le mercredi 28 mai est réservé donc pour les spectacles famille et que c'est gratuit sur le mercredi 28.
Pour le reste, les réservations sont ouvertes.
Oui, les billetteries sont en ligne, en vente, sur tous les réseaux, sur les magasins, enfin, vous trouverez tout. Voilà.
Tout simplement, et on vous suit sur les réseaux, moissonrock.org, le site internet, et bien sûr tout le reste.
Ouais,
pour avoir toutes les infos, les coulisses, enfin tout quoi.
Tout, les nouveautés, les vidéos que Thomas et Maëlle vont mettre en ligne, on se marre bien.
Une petite mise en scène avec Jean-Loup.
Les prochaines vont être pas mal. Il y en a dans les tuyaux, ça va être sympa.
En tout cas, il se prête bien au jeu. Hein.
Ouais.
Acteur studio.
Je crois qu'il adore.
Acteur studio, Jean-Loup.
C'est ça, en fait, il a quitté la direction du festival, il veut faire acteur. Ouais.
Ben voilà, exactement.
Et nous, on aime bien parce que, outre la façon de communiquer, c'est aussi montrer que derrière l'organisation d'un événement comme ça, il y a des personnes, il y a des gens qui s'impliquent. Et c'est pas juste 4 jours de festival. Nous, ça fait avec Laurent, on a commencé la prog en.
Le 31 mai dernier avec le travaux mythique.
Voilà.
Et qu'on n'a
pas pu faire. faire, mais voilà, c'est un grand travail qui dure toute l'année. Il y a des gens derrière et nous, on a aussi la volonté de montrer ça, quoi.
Donc, nouveau défi pour l'année prochaine.
Ouais. On va déjà laisser passer cette édition-là.
Exactement,
parce que,
exactement.
C'était compliqué à monter, en tout cas sur la programmation.
Bon courage pour la suite de l'organisation et puis on se reverra pour
la fin, on a
mise en place, en tout cas. Merci à vous deux.
Avec plaisir,
à toi. À très bientôt.
À très bientôt.
Mais plus fort.
Et c'est avec ça que se conclut l'émission pour aujourd'hui. Amis de la musique de tout poil, rendez-vous d'ores et déjà dans le prochain épisode de Mais plus fort. Il arrive très vite sur Radio Campus 3, Radio Mono, Radio Primitive et RJR.
Radio